RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Vincent Dublanche, le journal. En RDC, des combats qui se poursuivent au sud Kivu et un corridor humanitaire pour Goma.
Bientôt, en tout cas, Julien, c'est une annonce du gouvernement congolais qui explique que c'est l'ONU qui a discuté directement avec le M23 et le Rwanda. Au Mali, Mahmoud Diko va-t-il quitter l'Algérie où il s'est exilé pour poser le pied ce vendredi au Mali? On va en parler dans ce journal. On parle aussi de ce colloque au Parlement algérien qui remet sur le devant de la scène la question des essais nucléaires français dans le Sahara algérien dans les années 60. Et puis le journal des sports, Antoine Grenier dans 10 minutes, la présentation officielle hier des nouveaux sélectionneurs des équipes nationales en Côte d'Ivoire. C'est du football, la première prise de parole notamment, elle était attendue de Reynald Pedros qui prend en charge des féminines ivoiriennes mal en point. Et d'abord donc, cette annonce hier du ministre congolais de la Santé, un couloir humanitaire bientôt pour Goma. Samuel Kamba affirme qu'un accord a été trouvé entre des organisations humanitaires, notamment liées à l'ONU et le Rwanda, pour acheminer de l'aide via Nairobi et Kigali. L'aéroport de Goma est toujours impraticable après la prise de contrôle de la ville par le M23 et l'armée rwandaise. Le ministre, qui est aussi revenu sur le bilan des affrontements à Goma, Pauline Azidi.
Le constat du ministre est sans appel. Le système de santé de Goma a été mis à rude épreuve et le bilan humain est très lourd.
Nous avons 939 corps dans nos morgues. Et ça, ce ne sont pas les corps qui ont été enterrés parce qu'on a déjà enterré, sans compter les autres enterrements qui ont été faits, plus de 458 juste en 5 jours. Ça montre que le carnage que nous avons est largement au-delà de 3000 décès.
Dans les structures de santé, il y a aussi des blessés, plus de 4200 à ce jour, avec une pénurie de produits médicaux, d'où l'urgence d'un couloir humanitaire. Il passera donc par Nairobi et Kigali avant de rejoindre Goma pour faire entrer des médicaments, mais aussi du personnel de santé.
Ce sont les mêmes qui travaillent tous les jours, et donc avec un épuisement du personnel. Et donc la négociation maintenant, c'est comment envoyer nos médecins, comment envoyer nos infirmières pour qu'ils aillent travailler sur place. Si effectivement la sécurité est garantie, nous avons demandé donc que le couloir humanitaire, aussi bien pour les intrants, pour les équipements, que pour le personnel, soit garanti.
Le ministre ajoute qu'il n'y a pas eu de discussion entre le M23 et le gouvernement. Ce sont les humanitaires et l'OMS qui ont mené les négociations. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et hier, les combats ont continué dans le sud Kivu. Le front a peu bougé. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA se réunit par ailleurs aujourd'hui pour évoquer le conflit. Cette question maintenant au Mali, l'imam Diko va-t-il rentrer à Bamako? L'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, très influent dans le pays, est devenu l'un des principaux opposants des militaires au pouvoir. Il est en exil depuis plus d'un an en Algérie, mais ses soutiens annoncent donc son retour au pays cet après-midi. Un retour à haut risque s'il se confirme, David Baché.
Ses soutiens appellent à venir en nombre à l'aéroport de Bamako à 16h après la prière pour réserver un accueil chaleureux à l'imam Diko. Il n'y aura pas de rassemblement à l'aéroport, promet une source sécuritaire malienne, qui explique qu'un important dispositif des forces de l'ordre sera déployé. Il y a 9 jours, un responsable de la commission de retour de l'imam a été enlevé par la sécurité d'État. Daouda Magassa est toujours détenu dans un lieu secret. Nous sommes prêts à travailler avec les autorités pour que ce retour se passe bien, assure un collaborateur de l'imam, qui indique qu'une lettre a été envoyée en ce sens au gouverneur du district de Bamako, resté sans réponse. Face au risque de répression, l'entourage de Mahmoud Diko affirme que les dispositions nécessaires ont été prises. Accusé par les autorités de trahison et d'être hostile à la transition, Mahmoud Diko pourrait aussi être arrêté, emprisonné et poursuivi en justice, comme avant lui de nombreuses voix critiques des militaires au pouvoir. L'imam en a conscience, assure encore ce proche. Nous sommes prêts à ça, nous sommes prêts à tout. Malgré cette détermination affichée, certains observateurs jugent improbable que Mahmoud Diko veuille rentrer au Mali dans de telles conditions. Plus que quelques heures pour le savoir.
Radio France Internationale, 8h34 à Cotonou au Bénin. Est-ce que la modification constitutionnelle de 2019 crée une nouvelle loi fondamentale toute neuve qui remettrait les compteurs du nombre de mandats présidentiels à zéro? C'était la question qui était posée hier à la Cour constitutionnelle. Pour rappel, Patrice Talon a redit qu'il ne se représenterait pas l'an prochain. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Holo, lui, a rappelé que le texte même de la révision de 2019 précise que cette révision n'est pas une nouvelle constitution. Jean-Luc Aplogan, cela n'a pas empêché un soutien du camp présidentiel. en son nom propre, dit-il, de saisir la Cour constitutionnelle, qui a donc simplement répondu hier qu'il n'en avait aucun droit.
La Cour ne s'est pas prononcée, elle a déclaré le recours de Bertin Corvi irrecevable, expliquant que le requérant n'a pas qualité à formuler une demande d'avis sur la Constitution. Le chaud partisan du pouvoir, qui réclamait de toutes ses forces une rupture constitutionnelle, réagit en ces termes.
Je ne suis pas surpris. Mon maître a pensé, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Maroc m'avait déjà dit, tu n'as pas qualité pour poser à la Cour cette question.
À l'audience, la Cour a examiné d'autres recours sur le même sujet, mais contre Bertin Corvi, les auteurs accusent le soutien de Patrice Talon d'avoir violé la Constitution en ouvrant ce débat. Leur recours a été déclaré irrecevable. Virgile Bassa, un des auteurs des requêtes, n'est pas déçu.
Notre objectif, c'était pas la condamnation de M. Corvi, non. C'était finisse avec ce débat dans la République devant la Cour. Monsieur Corvi a pris l'engagement de finir avec le débat. Nous sommes déjà satisfaits.
Même si les sages n'ont pas répondu par oui ou par non, ils n'ont pas dit que la révision de 2019 valait une nouvelle constitution. Les Béninois interrogés s'en réjouissent. Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle, explique dans la presse qu'on parle de nouvelle constitution après une révolution, un coup d'État ou une conférence nationale. On verra si Bertin Corvi va vraiment tourner la page. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Sénégal, le gouvernement promet des enquêtes dans le respect de la présomption d'innocence après les révélations de la Cour des comptes mercredi sur la gestion des finances publiques sous Macky Sall. Tous les détails à 8h30, temps universel sur Radio France Internationale. Allons maintenant en Guinée, où le délibéré dans l'affaire concernant l'ancien Premier ministre d'Alpha Condé, Ibrahim Kassori Fofana, a finalement été repoussé hier, reporté à une nouvelle date. Raison invoquée par la Cour spéciale sur les infractions financières à Conakry, l'état de santé du prévenu Mouktarba.
Poursuivi devant la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité, l'ancien Premier ministre Kassori Fofana restera encore en détention hors de la prison civile et pour cause. Le substitut du procureur Amiata Kamba a expliqué pourquoi le prévenu n'était pas encore présent dans la salle d'audience. Nous avons, explique-t-il, fait l'ordre d'extraction pour extraire le prévenu qui a déclaré ne pas pouvoir se déplacer, qu'il est malade. Fin de citation. Remerciant le procureur, le juge Lansana Souma a expliqué qu'il y a toujours des difficultés de calendrier à la CRIEF, ce que reconnaît de facto l'avocat de l'État, maître Amadou Babayen Camara. Donc c'est tout à fait normal qu'il proroge le délibéré. De son côté, maître Sidiki Bereté, l'avocat de la défense, dénonce une attente interminable.
Nous sommes fatigués de cette détention préventive de plus de 3 ans dans une république. Si on fait des disqualifications purement politiques, sans penser à Dieu aussi, le souverain décide. Donc notre destin est le destin même de la République est entre les mains de Dieu. Kassori croit à sa foi, à sa famille, à la République et il croit à son innocence. Souhaitons que le droit triomphe. Ce sera une condamnation politique pour le faire disqualifier et ça ne marchera pas.
Le procureur avait requis 5 ans de prison contre l'ancien Premier ministre qui sera situé sur son sort le 27 février prochain. Mouktarba Conakry, RFI.
On en parlait hier, le procès contre le groupe pétrolier britannique Shell au Royaume-Uni après 10 ans de combats menés par les communautés locales nigérianes, notamment avec l'aide d'Amnesty International devant la justice. Shell, qui est accusé d'avoir détruit l'environnement direct de 2 communautés qui vivent dans le delta du Niger. RFI Londres, Emlim 20.
Les avocats de Shell devraient détailler leurs arguments préliminaires ce vendredi après avoir entendu ceux de l'accusation qui représente environ 13 000 habitants du delta du Niger. Des arguments techniques et des exemples de jurisprudence à la fois en Angleterre et au Nigeria. Le fond des débats commencera lundi. L'objectif pour Shell, c'est de convaincre la juge que l'entreprise anglo-néerlandaise ne peut pas être jugée pour des dégâts environnementaux commis, certes avec son pétrole, mais par des personnes tierces, des criminels locaux qui auraient siphonné les pipelines et se seraient adonnés à du raffinage illégal. Dans des documents soumis en amont du procès, la compagnie reconnaît son obligation d'indemniser les communautés touchées par des déversements pétroliers, même accidentels, mais pas dans les cas d'une intervention tierce. Au terme des 3 semaines de procès qui se tient à la Haute Cour de Londres et auxquelles certains participent à distance, la juge devra déterminer les contours du véritable procès Shell, entre guillemets, sur la responsabilité en elle-même prévue pour l'année prochaine. Emeline Vin, Londres, RFI.
Des dégâts environnementaux, et c'est un État qui est accusé ici, pas de processus judiciaire, mais une démarche politique et mémorielle en vue d'obtenir des réparations. On va terminer ce journal dans les dunes du Sahara, là où la France a mené ses premiers essais nucléaires dans les années 60 en Algérie. À cette occasion, la première explosion, c'était il y a 65 ans. Et donc, hier, à cette occasion, le Parlement algérien organisait un colloque dont le propos principal a été d'appeler la France à assumer ses responsabilités.
Faisal Mettaoui. Brahim Bourali, président de la Chambre basse du Parlement algérien, a qualifié de crime les essais nucléaires français dans le Sahara algérien durant les années 1960.
Les blessures de ce crime sont toujours béantes. Les victimes n'ont obtenu aucune réparation. Cette page sombre de l'histoire coloniale ne pourra être tournée sans que la France assume ses responsabilités historiques et juridiques concernant les catastrophes causées par les explosions. La France ne peut pas se soustraire à cette responsabilité par ses tentatives absurdes de contourner la question et d'ignorer les faits.
Brahim Bourali a critiqué la loi Morin sur les indemnisations qui, selon lui, a ignoré les victimes algériennes de Reagan et de Honecker où les essais nucléaires ont eu lieu. Amar Mansouri, expert en énergie atomique, plaide pour le nettoyage complet des sites contaminés.
Il y a eu des explosions atomiques et des essais chimiques et biologiques dans le Sahara. À ce jour, la France n'a pas reconnu ce crime nucléaire, n'a pas indemnisé les victimes et n'a pas décontaminé les sites pollués, contrairement au Royaume-Uni avec l'Australie et les États-Unis avec le Japon, notamment les villes d'Hiroshima et Nagasaki et les îles Marshall. Ces deux pays ont nettoyé les lieux et indemnisé les victimes, ce que la France n'a pas encore fait.
Les intervenants au colloque ont proposé, je cite, d'instituer une journée internationale pour les victimes des explosions nucléaires coïncidant avec le 13 février de chaque année. Faisal Mettaoui, Alger, RFI.
Et suite et fin des RFI matin, Julien Coquelroem.
Merci Vincent Dublange.